Onde Noire, deuxième partie, c'est reparti donc avec un nouveau générique, comme vous aurez pu le remarquer, qui est extrait de l'opéra rock Tommy Déhou.
Donc c'est une manifestation qui est organisée par la mairie de Villeneuve-les-Avignon, la mairie avec Patrick Parra s'en occupe activement. Je voudrais aussi citer Corinne Tonnelly, qui est à la mairie de Villeneuve et qui se défonce pour cette manifestation. Un directeur artistique qui est
Gilles
Delpapas, qui est un auteur bien connu marseillais, et puis aussi qui petit à petit est arrivé dans la manifestation, Jean-Claude Claes, qui avait conçu l'affiche l'année dernière, et qui s'occupe, je pense, plus précisément du côté bande dessinée et de l'exposition. Et cette année, c'est Miles Eman qui a fait une affiche absolument superbe. Donc, vous pouvez aller voir le site avec le programme complet. Donc, sur, vous tapez Festival du Polar Méditerranéen Villeneuve-les-Avignon dans votre Google favori et vous tombez sur cette merveilleuse affiche avec le programme complet. Si on peut avoir un petit morceau de musique, si c'est possible.
Donc, on va se mettre un petit morceau de musique de Slash, qui était le guitariste de Guns N' Roses, le morceau, ben, vous le reconnaîtrez, c'est un thème de film très très connu. Bon, ben voilà, c'est dans ce délire de Larsen et de guitares électriques, vous avez certainement reconnu le thème du Parrain, écrit par Nino Rota.
Voilà, c'est The Godfather, c'est un des films, un des extraits de films que dont nous allons parler à Villeneuve-les-Avignon. Voilà, alors je reprends mes esprits et je réannonce correctement cette manifestation. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Ça commence le vendredi soir au cinéma avec une nuit noire et un buffet sicilien. Attention, on va vous demander de vous mettre à table. C'est à Villeneuve-les-Avignon. Ça se passe tout autour de la Chartreuse, qui est un lieu fantastique. une exposition superbe autour de 4 illustrateurs de bande dessinée, beaucoup d'auteurs, des films, le parrain, un des parrains Didier Deninck, l'autre parrain Olivier Marchal. Voilà, donc on va maintenant parler de 2 livres assez récents et décidément on aura fait toute notre émission sur le poche puisque la collection Grand Détective chez 10-18, un nouveau venu dans le monde du polar, Fabrice Bourland avec le fantôme de Baker Street. C'est une nouvelle série, hein, 10-18, la série Grand Détective, c'est de longues séries dédiées à un personnage qui enquête dans une époque de l'histoire. Et là, on fait la connaissance donc, de 2 détectives amateurs, je vais essayer de prendre mon plus bel accent anglais, Andrew Singleton et James Trelawney, l'un très cartésien et l'autre beaucoup plus porté sur le mystérieux et l'irrationnel. Et de l'irrationnel, dans cette enquête, ils vont en avoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Fabrice Bourland est parti d'une idée très originale. C'est qu'en fait, on va avoir des malfrats, des assassins, qui sont plutôt des ectoplasmes. Et au départ, la veuve de Conan Doyle leur demande, donc aux 2 détectives amateurs, de se rendre au 221 Baker Street pour rencontrer un fantôme.
221B.
Baker Street ?
Non, B.
Ah, 221B, pardon. Il faut vous expliquer que, ça on nous l'explique très bien dans le livre, ce numéro n'existait pas du temps de Conan Doyle. Il l'avait fait exprès d'ailleurs pour que, si jamais ces livres avaient eu du succès, les propriétaires de cette maison ne soient pas envahis de fans de Sherlock Holmes. Mais par contre, lors de grands travaux dans les rues londoniennes, la rue a été prolongée et il est apparu 220 Baker Street. Et dans le livre, l'appartement est hanté. Devinez par qui ? Donc on pense que c'est le fantôme de Sherlock Holmes, mais pourquoi ? Sans compter que les meurtres commencent et qu'ils ressemblent à s'y méprendre au méfait de Jack l'Éventreur, le fameux Jack the Ripper.
Parce que s'il y a des fantômes, les meurtres, par contre, eux, sont bien réels. Hein.
Les meurtres sont bien réels. Hein. Bref, question fondamentale, est-ce que des fantômes peuvent assassiner ? Pire, est-ce que des esprits, de personnages de romans, peuvent s'en prendre à des vivants ? Il n'est pas aisé de courir après des ectoplasmes. Bref, l'idée est vraiment très, très originale.
C'est la vraie bonne idée
du
roman, ouais. Oui, tout à fait.
C'est plutôt bien mené tout au long du livre. C'est très, très érudit. On apprend beaucoup de choses à la fois sur Sherlock Holmes, sur l'ensemble de la littérature victorienne, dont Fabrice Bourland a l'air d'être un connaisseur et quelqu'un qui apprécie beaucoup cette littérature. On a aussi beaucoup, beaucoup d'anecdotes sur le spiritisme. C'est donc son premier livre à suivre. Bon, allez, je fais un petit bémol. Va falloir un peu peaufiner le style. Il y a un petit peu des petites lourdeurs dans l'écriture. Mais c'est vraiment plein de promesses. Donc, on espère que ça va s'améliorer dans les autres. Et d'ailleurs, on peut aller directement lire son deuxième, que personnellement, nous n'avons pas lu. Ça s'appelle « Les portes de sommeil ». C'est le numéro 4091 dans la même collection. Toujours pareil, c'est une série.
10-18.
10-18. Toujours en poche. Un très bon roman qui s'appelle « La mémoire courte ». L'auteur, encore un petit nouveau, quoique lui aussi, il y en a un autre depuis. Louis-Ferdinand Desprez, je ne sais pas comment on prononce, D-E-S-P-R-2-E-Z, pardon. « La mémoire courte », point seuil policier, 6,50 €. C'est vraiment maintenant pratiquement les livres les moins chers. On part en Afrique du Sud. On est après l'apartheid, en pleine période électorale. Et chaque samedi matin, un cadavre est trouvé dans des endroits différents de Pretoria. Le visage arraché, les mains abîmées. Il n'y a vraiment aucun moyen d'identifier les corps qui se succèdent inéluctablement chaque fin de semaine. Chargé de l'enquête, c'est le capitaine Zondi. C'est un as du SAPS, South African Police Service. Il est chargé donc de l'enquête, pardon. Au départ, rien de rien, aucun indice. Et puis un infime détail, vraiment un tout petit truc, permet aux flics de trouver une piste. Et qui va le faire remonter fort loin du temps de l'apartheid, quand certains blancs pouvaient se permettre de traiter les nègres pire que des animaux, et tout ça en toute impunité. En Afrique du Sud comme ailleurs, il ne faut pas avoir donc la mémoire courte. Comme je vous le disais, c'est un premier roman et c'est une réussite totale. bien écrit, formidable témoignage sur l'Afrique du Sud actuelle. Pas de manichéisme, les Noirs peuvent être aussi salauds que les Blancs, à commencer par le flic lui-même, qui est un sacré personnage. Alors, comme dans cette émission, tout est à volo en ce moment, il me faut encore quelques secondes pour ouvrir le livre à la bonne page. Ça y est, et encore, j'ai même pas besoin de lunettes, heureusement. Allez, une petite description du capitaine Zondi. Le capitaine, pourtant diplômé du FBI et fervent chrétien, n'avait pas une vision holistique du crime, ni une vision compassionnelle des criminels dans la société post-apartheid. Pour Zondi, un criminel était par définition une pourriture sociale, une brebis galeuse pas assez saine pour vivre en harmonie dans le troupeau. Zondi n'avait jamais été tenté de trouver des circonstances atténuantes aux délinquants, ni des excuses. Il savait qu'il existait dans le monde d'autres capitales, en Asie ou en Afrique, où la pauvreté n'engendrait pas systématiquement la violence, mais ce n'était pas le cas en Afrique du Sud, en tout cas pas en ce moment. Il ne voyait donc pas pourquoi la police devrait avoir des scrupules à faire son boulot. Son job, c'était de capturer ces moutons noirs, puisqu'il n'avait pas le droit de les saigner lui-même. Donc vous voyez, c'est pas un flic très sympa, il malmène les suspects, enfin, c'est vraiment un drôle de type, mais c'est totalement justifié par Despresse qui nous raconte...
Mais il est noir, faut bien dire, hein, le flic.
Ah oui, le flic est noir, pardon, oui. Et c'est totalement, c'est pour ça que je dis que ça évite vraiment tout manichéisme, c'est vraiment bien justifié, car... En toile de fond, évidemment, on a l'Afrique du Sud actuellement, avec cette fin d'apartheid qui n'a absolument rien à résoudre. Les problèmes entre les blancs et noirs sont tout aussi présents qu'il y a une quinzaine d'années. On dirait, dans la littérature noire en tout cas, encore plus. On en a eu un brillant exemple avec Zulu de Caryl Ferré.
Voilà, qui se passait à Cape Town, mais c'est à Pretoria et c'est exactement pareil.
C'est exactement pareil. Et c'est un super témoignage. Voilà, on avait eu les livres à seuil policier de Deon Meyer aussi, qui était vraiment excellent. Et là, Louis Ferdinand Despresse, La mémoire courte. Je ne vous ai pas cité le traducteur, c'est simple, c'est un Africain du Sud, mais il écrit superbement
directement en français.
En français. Et voilà, après tous ces aléas, c'est la fin de cette première magnifique émission.
Et on se retrouve dans 15 jours.
Au revoir.